Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre la fréquence de la paix qui vous propose votre magazine interactif Parole aux auditeurs. Le projet de loi modifiant et complétant les codes miniers est à l'examen à l'Assemblée nationale. Selon le ministre de Mines, plusieurs innovations ont été introduites dans ces nouveaux codes, notamment la responsabilité sociétale de l'opérateur minier, la transparence et la bonne gouvernance, le régime fiscal et douanier. Certains observateurs estiment qu'une fois promulgués, ces nouveaux codes va inciter et attirer les investisseurs et assurer le développement du pays à partir du secteur minier. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 09 97 06 49 69 ou 09 97 06 63 80 pour vos interventions en direct. Le débat s'est déroulé également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nico Kalambay est à la réalisation et J.R. Lungembo au standard et à la coordination de ce magazine, mise en onde par Paul Bayanyama. Pierre Lamégieux vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Plusieurs voix s'étaient élevées depuis 2012 lors du 10e anniversaire du code minier pour exiger sa révision. Plusieurs organisations de la société civile estimaient que ce code minier n'était pas bénéfique pour la population. Il profitait plus aux entreprises d'exploitation dans les secteurs miniers. Il faudrait de toute le façon le réviser pour qu'il réponde aux besoins du développement du pays. Et le code révisé a été déposé à l'Assemblée nationale où le ministre des Mines pourra retourner demain, je crois bien, pour répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux. C'est ainsi que nous en parlons avec vous parce que beaucoup de gens estiment qu'une fois promulgué ce nouveau code va inciter et attirer les investisseurs dans les secteurs miniers et assurer ainsi le développement du pays. Et pour en parler, nous avons associé Maître Jean Keba Kangodi, avocat chargé de la protection des victimes et des ressources naturelles à la ZADO. Maître Keba, vous avez travaillé, milité pour que ces codes soient révisités. Bonjour et bienvenue, maître.
Bonjour, Pierrot, et merci pour l'invitation.
Et vous avez beaucoup milité pour qu'on puisse revoir ces codes.
Ok, merci. C'est depuis pratiquement 2012, donc 10 ans après la promulgation du code minier 2002, et les organisations assez civiles qui travaillent sur la gouvernance des ressources naturelles avait, après évaluation, invité le gouvernement à pouvoir lancer le processus de la révision de ce code afin de pouvoir répondre aux insuffisances qui ont été constatées 10 ans après sa mise en application. Et c'est depuis lors que la société civile, qui s'était organisée dans beaucoup de poules de réflexion, a dû formuler beaucoup d'amendements sur ces avant-premières qui sont cruciales et vont pouvoir aider l'exploitation minière à pouvoir satisfaire aux droits des communautés locales qui sont affectées par l'exploitation et booster le développement durable de ces communautés et aider aussi l'État à pouvoir se retrouver en termes de retombées fiscales par rapport à l'exploitation qui était en cours. Et c'est là que nous sommes en train de travailler là-dessus avec les autres parties prenantes.
Mais quelles ont été les faiblesses du code dans la version de 2002 que vous avez soulevée?
Pour les faiblesses, il y en a beaucoup. D'abord, c'est qu'il faut d'abord souligner que le code de 2002 était beaucoup plus ouvert, plus attractif, et il a eu le mérite de pouvoir d'avoir attiré beaucoup d'investissements miniers et d'avoir aidé aussi à relever la production minière jusqu'à atteindre des niveaux records dans l'histoire minière de la RDC. Mais malheureusement, contrairement à cette croissance de la production, lorsque nous regardons les populations qui vivent autour des sites d'exploitation, elles sont dans une pauvreté accrue. Et elles vivent souvent en conflit avec les entreprises, à la suite de plusieurs cas de violation des droits de ces personnes qui sont régulièrement constatés sur le terrain. Et la participation de la population à la prise de décision dans le cadre de l'exploitation minière n'était pas suffisamment organisée dans la loi. Vous avez les questions de l'artisanat minier qui occupe des centaines de milliers de personnes qui n'étaient pas non plus bien organisées dans la loi. Et quand on regarde l'exploitation illicite qui a tout ce qui se passe comme conflit, guerre, la transparence même, les questions de conflit d'intérêts entre les décideurs qui gèrent le secteur et leur participation dans la gestion du secteur minier, mais c'était des questions importantes qui n'étaient pas prises en compte, sans parler de la gouvernance et la transparence même du secteur. La destruction de l'environnement. Donc il y a beaucoup de questions sur lesquelles la société civile s'est basée pour pouvoir s'engager dans cette lutte, afin de voir cette situation être améliorée pour aider l'État à tirer une bonne partie de revenus générés par l'exploitation et aider aussi les communautés à pouvoir se retrouver. Les provinces de production qui ont droit à la rétrocession de redevances minières ne voient jamais cette redevance revenir, ni à la province, ni à l'entité qui doit décentraliser où la production a lieu. Toutes ces questions-là nous ont poussé à pouvoir agir et faire des propositions d'amendements que nous avons portés au niveau du gouvernement et que nous entendons aussi porter au niveau de l'Assemblée nationale pour que les députés s'en approprient afin de pouvoir aider le pays à avoir une législation beaucoup plus équitable et transparente qui favorise le développement du pays.
Merci Maître, on va revenir à vous parce qu'il y avait aussi ces inquiétudes exprimées par du côté du pouvoir public. On estimait qu'avec la révision, ça pourrait faire fuir les investisseurs. Est-ce que c'est le cas? Et là, on va analyser ensemble avec vous hein, après. Nous avons les auditeurs qui sont en ligne, hein, qui nous appellent au 09-97. Je rappelle encore bien le numéro 09-97-06-49-69, 09-97-06-49-69 pour intervenir. Venir en direct. Maître Gaston, vous êtes à Kananga et Eli qui est en Bandaka. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook où il y a ces débats qui se déroulent aussi en ce moment.
Parole aux auditeurs.
Maître Gaston, merci de nous avoir contactés. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, je vous salue aussi, Pierrot.
Voilà, on vous écoute.
Bon, je salue d'abord, vous savez, chaque révision, soit chaque modification vient avec ses innovations. Ça, il faut les accepter. Il faut qu'à chaque fois on compte voir les choses dans le bon sens. Et il faut tenir à ce que cette manière de voir les choses soit concrétisée. Parce que dans la plupart des cas, on prévoit, mais l'application, soit la concrétisation, pose problème. Mais je devrais dire par rapport à mes idées. Moi, je pense que l'État, notre, vous savez que ce secteur, c'est vraiment un secteur qui génère un peu de recettes dans notre pays. Si on peut dire qu'un secteur productif dans notre pays, c'est ce secteur minier ici. Mais nous constatons que l'État se limite à percevoir des redevances. Et pourtant, ça, c'est nous sommes plus à l'époque archaïque, à l'époque traditionnelle où l'État était un État policier. Notre État doit vraiment, à mon avis, intervenir dans le sens de commercialiser ces non minéraux. Donc l'État doit lui-même explorer d'abord sur toute l'étendue, connaître où se trouvent les produits miniers, non seulement explorer, mais aussi exploiter et transformer. Et là, ils pouvaient gagner une grande chose, parce que dans des pays développés actuellement, on sait de voir des États investir dans ces domaines-là. Mais chez nous, non, le gouvernement se contente du pays qu'il gagne là, comme étant chef de terre, droit de terre, qu'on peut qualifier de droit de terre. Mais moi, je pense que c'est très insuffisant. Donc l'État doit se comporter comme un commerçant et investir, soit intervenir comme tout investisseur dans ce domaine-là, dans le sens de pouvoir revoir en os ses ressources. Mais il est aussi vrai qu'on ne sait pas voir les Congolais et même investir dans ce domaine-là. Donc les Congolais se contentent, non, d'être des manœuvrés. Et pourtant, c'est un secteur qu'on devrait plus voir les Congolais investir. Bon, bien que nous savons que les Congolais ne sont pas vraiment des investisseurs, des grands investisseurs, mais au moins, moi, je conseille aussi aux Congolais qui sont partis par là d'investir dans ces domaines-là, c'est que travailler sur place ici, transformer nos produits ici, explorer, exploiter, et puis pour l'intérêt de notre pays, avant qu'on puisse voir les investisseurs étrangers qui viennent pour œuvrer dans ces domaines-là. Mais aussi l'encadrement des artisans. On sait voir les petits Congolais qui exploitent manuellement, artisanalement, qui ne sont pas encadrés, qui sont voués à tous les risques. Si le gouvernement s'est contenté d'encadrer ces artisans-là, ce serait aussi vraiment, à mon avis, une bonne chose qui pouvait aussi profiter, surtout aux communautés locales que vous faites allusion là, parce que c'est ces communautés-là que nous voyons qui travaillent comme des manœuvres auprès des investisseurs étrangers, mais aussi dans les petites exploitations là, par-ci, par-là, qui sont voués à toutes les tracasseries. Mais je voulais aussi souligner l'aspect de l'évasion fiscale, parce qu'on a pu constater que le paix des investisseurs qui viennent ici, ce sont des gens qui sont couverts par les autorités politiques, non, l'argent qui devrait normalement entrer dans la caisse de l'État, c'est l'argent qui entre dans des commissions, qui sont donnés à ceux qui jouent sur les trafics des influences, des trucs comme ça. Ça aussi, on ne pouvait pas attendre à grande chose, même si on revoyait les textes.
Maître Gaston, c'est ce que disait notre invité tout à l'heure, qu'il faille dans le nouveau code d'insister sur la transparence. Le ministre l'a dit, que parmi les innovations pour éviter effectivement ces trafics d'influence qui provoquent l'évasion fiscale. Mais vous avez retenu ces quatre points qu'il faudrait aujourd'hui favoriser à travers ces codes miniers les investisseurs nationaux. Pourquoi pas aussi la question de la transformation de matières premières ici avant leur exportation, l'encadrement des exploitants artisanaux, mais aussi la question de l'évasion fiscale. Et c'est l'ensemble de ces quatre éléments, vous estimez qu'ils doivent être pris en compte dans l'examen de ces nouveaux codes. Merci beaucoup, Maître Gaston. Eli Lokwa, vous êtes en Bandaka. Et sur la page Facebook Eli, vous avez beaucoup insisté sur l'aspect socio-environnemental qui doit être pris en compte dans le nouveau code qui est en examen à l'Assemblée nationale. Bonjour Eli.
Ah oui, bonjour Radio Capi. Je salue l'invité et tous mes co-débatteurs de la Radio Capi. Je suis d'avis positif, juridiquement parlant, pour la modification de cette loi qui permettra aux opérateurs d'ici investir. Mais toutefois, comme je l'ai dit dans la page Facebook, il faut intégrer l'aspect socio-environnemental pour lutter contre l'exploitation dévastatrice et illicite des ressources qui risque de provoquer la dégradation ou la pénurie des ressources minières par les exploitants capitalistes qui ne cherchent que leurs intérêts égocentriques dans notre pays. Nous voulons qu'il y ait une meilleure politique de gestion sur ce secteur, selon moi et à moi-même l'avis. On vit de valoriser la culture du développement durable et une économie verte. Pourquoi je parle du développement durable et pourquoi je parle de l'économie verte? Le secteur minier, c'est un secteur vocateur de l'emploi. Ça peut faciliter beaucoup de Congolais de pouvoir bénéficier de l'emploi et être employé, bénéficier d'un travail décent. Ça, c'est un. Mais ce qui nous décourage aussi, c'est le fait d'avoir trop d'instruments juridiques sur ce secteur, mais qu'il ne reste toujours des théories, et qui ne sont même pas exécutoires. C'est ce qui semble être difficile dans notre pays. En plus, notre pays, ce que nous devons savoir, a une forte écologie de gisement, composée d'un énorme potentiel de ressources minières, stratégiques et endémiques. Par exemple, le coltan, dans notre pays, c'est une ressource endémique qui ne peut se retrouver que dans notre pays. Et cette ressource participe même pour la fabrication de certains appareils, les téléphones, ça participe à la fabrication des ordinateurs. Mais pourquoi nous, les Congolais, nous vivons dans une pauvreté notoire dont nous ne pouvons même pas chercher le moyen pour pouvoir aller au développement? Ça, c'est quelque chose que nous devons rejeter en bloc. On ne peut pas accepter et tolérer ces bêtises, n'est-ce pas? Ce que je voudrais rappeler aux autorités, c'est de pouvoir harmoniser la manière de gestion sur les contextes de ces secteurs miniers. Parce que le secteur minier, vous savez, même dans le contexte de notre coin du pays à l'est, il y a beaucoup de gisements, il y a beaucoup d'espaces auxquels on peut exploiter les produits miniers. Mais tous ces produits miniers sont pour les biens des autres habitants étrangers. Cela ne correspond même pas, ne répond aussi même pas à la vie sociale
et
économique
et d'ailleurs, Élie Lokwa, tout à l'heure, vous avez relevé ces deux éléments importants, Élie Lokwa, la question de la protection de l'environnement. D'ailleurs, l'ancien code minier prévoyait déjà l'étude de l'impact environnemental. Hein, donc, quand il y a un projet minier qui doit être installé dans une contrée quelconque, mais vous insistez aussi sur qu'il y ait des mesures au sein, au niveau du nouveau code minier sur l'aspect de protection de l'environnement, mais aussi l'aspect de l'harmonisation, n'est-ce pas, de la gestion, des redevances, de la traçabilité des recettes, pour qu'enfin les populations locales puissent bénéficier vraiment de l'exploitation des ressources minières dans leur contrée. Merci beaucoup. Valérie, vous êtes à Kindu. Merci d'être avec nous. Examiner la loi, avoir un nouveau code, c'est une chose. Maître Gaston le disait tout à l'heure, qu'il y a un fossé entre la révision, la volonté de réviser une loi et aussi la volonté de la mettre en pratique pour qu'elle réponde au vrai problème, parce que vous l'avez toujours insisté sur que la loi vient résoudre un fait de société.
Merci beaucoup Pierrot, bonjour d'abord et bonjour à l'invité. Je suis content parce qu'on apprend à se connaître. Il faut te rappeler ce que j'ai toujours dit, c'est bon. Oui, mais je dois dire dans les cas de figure qu'avant même de parler de l'application, par rapport au code minier, à entendre l'invité, l'effet est grave. Je ne veux même pas commencer par l'application, mais je m'en tiens d'abord à la législation, à la légifération. Vous comprendrez à travers l'exposé de notre invité que le code minier de 2002 a été élaboré, permettez-moi, dans une complaisance. Donc, il y a une faiblesse dans les chefs de ceux qui ont été négociés du côté de l'État, du côté de la société civile et du côté même de gestionnaires des entreprises minières. Puisqu'on vous dit bien que on a compris les faiblesses, si bien que l'environnement n'en profitait pas, l'État n'en profitait pas, mais mon frère Pierrot, est-ce qu'on peut concevoir une loi comme ça dans un secteur qui est le secteur moteur du budget de l'État avec de telles faiblesses? Là, c'est très grave. C'est très, très grave, ça. Alors, moi, je dis ceci. Il faudrait que nous sachions d'abord que c'est un secteur hypersensible. Nous ne sommes pas comme l'Angola. Je prends l'exemple du diamant. Nous n'avons qu'une seule minière en Boujimaï. Mais l'Angola en a combien? Ce qui avait fait la force de Jonas Savimbi. Il en avait 6 et 5 dans le secteur qu'il gérait. Si les pays qui ont pris les 5 milliards de diamants, qui ont les ressources pétrolières, ainsi de suite, mettent quand même du sérieux, et nous qui n'avons jusque-là que le secteur minier comme moteur de l'économie, nous devons légiférer avec beaucoup de faiblesses quand on nous donne l'occasion de légiférer. Je ne sais pas si le pays appartient au peuple congolais ou bien il appartient à une minorité qui se retrouve quelque part dans les 4000 pour parler de législation. Alors, je rentre un peu plus loin, permettez-moi, comment nous sommes d'abord arrivés à cette situation? Comment expliquer que les entreprises que nous avaient laissées les Belges, je cite la Gécamines, la Miba, la Somenki, le Kimon et autres, comment se fait-il que ces entreprises sont tombées en faillite? C'était à cause du non-renouvellement de l'outil de production. On n'a pas renouvelé l'outil de production. Et je me demande dans quelle université du monde on forme des licenciés, des ingénieurs, tel que vous pouvez acheter une machine ou des machines, travailler avec, arriver jusqu'à l'amortissement sans pour autant avoir pourvu aux frais de remplacement. Et après avoir achevé ces stades, voilà que quand il faut légiférer entre nous, il n'y a aucun étranger là-bas, il n'y a aucun Américain, aucun Belge, aucun Français, nous échouons même de créer, d'ouvrir déjà des pistes pour maximiser les recettes. Là, moi, je regrette beaucoup. Alors, il faudrait, pour cette fois-ci, primo, que l'on maximise suffisamment les recettes. On dit que c'était pour favoriser les investisseurs. Est-ce que nous sommes un pays qui peut souffrir d'investisseurs dans le domaine minier? Non. Nous sommes convoités par toute la planète. Quels sont ces investisseurs qu'on a voulu favoriser? Alors que ce sont les investisseurs qui doivent courir vers nous. Que les codes puissent ouvrir facilement des recettes à l'État. Dans cette optique, s'il faut que l'État revoie sa part du capital à la hausse, que l'État revoie, parce que ce n'est pas normal qu'on puisse augmenter la production, alors que ce qui revient à l'État, c'est une infime partie. Autant même rentrer dans la logique où nous étions nous-mêmes propriétaires, parce que quand nous étions propriétaires, tous les revenus de la Gécamine, de la Miba, de la Somenki appartenaient à l'État congolais. Je l'ai déjà dit une fois, je rappelle, il suffisait que la Gécamine paye sa facture de consommation d'électricité à la SNEL. La SNEL était capable de payer tout son personnel. Il y avait un cycle, il y avait des effets que les économistes appellent les effets externes positifs. C'est-à-dire, je dirais, les effets d'entraînement positifs. Lorsqu'on produisait du cuivre au Katanga, la SNCC pouvait transporter jusqu'à Ilebo, l'ONATRA transporte jusqu'au Bichingobila, et ensuite vers le port de Matadi, et on amène en verse. Tous les secteurs pouvaient fonctionner. Et la SNEL, n'en parlons pas. Aujourd'hui, nous commençons à augmenter la production pour l'intérêt des investisseurs et non pas pour notre propre intérêt.
Et là, c'est ce qui est important. Et c'est de là où la révision, elle est très importante, ingénieur Valérie, pour résoudre à cette question, comme vous l'avez dit, que ça ne soit pas seulement d'une manière complaisante, mais que l'élaboration de la loi réponde aux besoins réels de la population. On va écouter Maître Trésor Likonza qui est ici à Kinshasa et revenir à notre invité pour qu'il place ses mots par rapport au point de vue des compatriotes de tout à l'heure. Maître Likonza, merci d'être avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
Voilà, on vous écoute, Maître Likonza.
Bien, merci. Je pense qu'il est grand temps pour nous maintenant de privilégier plus l'entrepreneuriat local. Il n'y a pas plus d'une semaine, nous en avons parlé au cours de cette émission. Mmh. Et maintenant, le moment est arrivé où les parlementaires congolais doivent donner satisfaction à cette préoccupation des communautés locales qui vivent dans des zones minières. Et donc, dans ce code-là, on doit revoir pour essayer de définir les activités exclusivement réservées à l'entrepreneuriat local et laisser quelques activités aux industriels miniers qui ne doivent pas s'accaparer, comme on avait dit l'autre fois, de toutes les activités. Puisque les Congolais ne doivent pas se comporter en esclaves vis-à-vis des expatriés, tout en étant dans leur pays, dans leur propre pays. Hein? La population congolaise ne sent pas l'impact des minerais que nous avons, alors que ces minerais enrichissent les États étrangers. Alors maintenant, nous devons donc être prudents pour que 10 ans plus tard, nous ne puissions plus revenir sur la problématique n'avoir pas bénéficié de nos minerais à cause du code minier. Et aussi, dans ce code minier, on doit tenir compte de l'aspect qui ressort de la position du président américain, qui venait d'autoriser les entreprises américaines d'acheter désormais les minerais du sang. Alors que la loi qui interdisait cela était avantageuse aussi pour la République démocratique du Congo. Maintenant, nous sommes dans un autre contexte plus dangereux pour l'économie congolaise. Et donc, il faudrait revoir tous ces aspects-là et doter le pays d'un code minier cohérent qui puisse aussi faire face aux exigences internationales, plus particulièrement à l'actuelle position des Américains. Parce que là, en quelque sorte, c'est une manière aussi de déstabiliser la RDC. Alors, il faudrait que le code minier qui doit être modifié puisse mettre la RDC à l'abri de cette position-là.
Merci beaucoup.
Tout, j'insiste sur l'entrepreneuriat local.
Merci beaucoup. Il faudrait que cela ressorte, même quand on a fait ces débats avec Georges Bokundu autour de le forum minier Indaba qui s'est déroulé à Kolwezi, c'était aussi cette question qui devait être évoquée clairement au niveau de la loi, la place de l'entrepreneuriat local, pourquoi pas aussi les exploitants artisanaux comme l'a évoqué tout à l'heure notre ami Gaston. 09 97 06 49 69 09 97 06 49 69 09 97 06 63 80 pour intervenir en direct. Et nous allons accorder la parole à Maître Keba qui est avec nous comme invité dans ce magazine.
Parole aux auditeurs.
Maître Jean Keba, vous avez suivi les compatriotes. Chacun a pu émettre un point de vue autour de cette question. Quel est le commentaire que vous pouvez faire par rapport à toutes les différentes interventions des compatriotes?
Oui, merci Pierrot pour la parole et je remercie tous les intervenants pour leur contribution à ce débat. Je crois que toutes les questions qu'ils ont soulevées sont pertinentes et sont fondées. D'entrée de jeu, il faudra d'abord commencer par rappeler dans quel contexte le code minier de 2002 avait été adopté. Et ce n'était pas une initiative des Congolais eux-mêmes focalisés sur une vision clairement définie pour voir qu'est-ce que nous voulons faire de notre secteur minier qui est un secteur stratégique. C'était une initiative de la Banque mondiale et le pays qui sortait d'un conflit armé qui avait duré avec une position affaiblie, a fait qu'accepter sans qu'il y ait une appropriation suffisante afin de pouvoir bien intégrer les dispositions qu'il y avait et voir comment gérer le secteur pour le rendre beaucoup plus rentable pour le pays. Ça, c'est un fait. Mais il est vrai maintenant qu'après 10 ans, après qu'on ait acquis l'expérience, qu'il y ait des leçons, il est le moment est aujourd'hui indiqué de pouvoir revenir pour recadrer les choses. La question d'entrepreneuriat local. Nous avons dit que le code a eu le mérite d'attirer beaucoup d'investissements. Généralement, si le secteur était bien gouverné, on devait, à travers la sous-traitance, donner la possibilité aux Congolais d'avoir des petites et moyennes entreprises tout autour de l'industrie minière, ce qui pouvait les aider à pouvoir récupérer une partie du capital investi et développer d'autres activités connexes. Et cela allait aider à pouvoir développer notre classe moyenne. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quand vous allez au Katanga, où il y a beaucoup d'investissements miniers, vous verrez que la plupart des sous-traitants, ce sont des expatriés. Ce qui fait que l'argent qui est venu repart encore à l'extérieur. La question de l'artisanat minier, c'est une question très importante. Aujourd'hui, ce sont des millions de Congolais qui sont dans ce secteur, mais qui n'est pas suffisamment organisé. Ce qui fait qu'on ne sait pas encadrer leurs activités, on ne sait pas orienter cette activité pour capitaliser la production qui est issue du secteur. Et beaucoup de la production est écoulée d'une manière frauduleuse, et ce qui a fait qu'il y a maintenant beaucoup d'opérateurs illicites qui extraient des étendues importantes et laissent les cela échappent à l'État. Et cette révision est une opportunité pour que le stratège puisse prendre des mesures qui convient pour mieux encadrer ce secteur, mieux le formaliser, afin de minimiser ou bien d'écarter toute possibilité d'exploitation illicite. Le président a parlé de la loi de Trump, avec la position du gouvernement
Trump. Oui.
Nous ne devons pas dépendre de ce que les autres pays décident. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes et pouvoir organiser ce secteur de façon à pouvoir écarter cette possibilité de voir les individus venir avec les armes, s'implanter, commencer à exploiter et aller vendre illicitement. Et c'est un aspect que ce code est appelé à pouvoir couvrir aussi pour intégrer tous les mécanismes de traçabilité que nous avons à travers les initiatives auxquelles nous faisons partie, intégrer dans la loi afin de mieux retracer toute production minière, qu'elle soit artisanale ou minière, ou industrielle qui sort du pays, ou le cas dans le secteur, dans le circuit formel, où l'État peut imposer et gagner quelque chose pour assurer le compte de la communauté.
Voilà.
Je pense que la présence des Congolais dans le secteur minier, ça aussi c'est un problème, parce que nous avons nos sociétés publiques, comme la Gécamine, la Niba et autres, qui sont aujourd'hui peut-être dans une situation de quasi faillite. Mais ça aussi, c'est une question de gouvernance que la loi aussi doit résoudre. Et si nous prenons le cas de la Gécamine, avec les différents partenariats conclus, elle a eu suffisamment la possibilité d'avoir des ressources pour pouvoir relancer la production et ses activités afin d'être une entreprise concurrente du côté de l'État vis-à-vis des privés et aider l'État à pouvoir bien maîtriser le secteur. Mais malheureusement, c'est la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, les détournements de tous les flux financiers engendrés par les partenariats pour les États-Unis qui n'a pas permis à ce que nous puissions capitaliser d'opportunités qui étaient les différents partenariats. La Géramine est partenaire dans toutes les entreprises qui ont investi au Katanga et ailleurs. Mais sa part de bénéfices, on ne voit pas l'impact. Et ça, c'est une question de gouvernance. Nous avons parlé de la question des conflits d'intérêts. Il est opportun qu'avec l'initiative IPA, que le législateur puisse insérer tous les principes que la norme IPA nous accorde afin de rendre le secteur encore plus transparent et éviter les cas de corruption qui font que ce sont les mêmes acteurs qui sont qui décident pour le compte de l'État, qui négocient aussi pour les privés. Mmh. Et cela fait que l'État est fragilisé et n'arrive pas à tirer
le compte de
voilà. La question de l'évasion fiscale, c'est une question très cruciale.
Mmh.
Je demande aussi qu'il y ait une réforme et qu'il y ait une formation aussi de l'administration publique spécialisée afin de pouvoir suivre les opérations minières. Les entreprises trichent de plusieurs manières, en gonflant leur investissement. C'est que l'administration ne sait pas suivre et ne maîtrise pas. Avec les exonérations qu'ils ont, cela fait qu'il y a des projets qui récupèrent leur investissement, mais au moment où ils doivent commencer à payer l'impôt sur le bénéfice à l'État, entament d'autres phases pour remettre à long terme le paiement de l'impôt sur le bénéfice. C'est là que l'État devait tirer beaucoup d'argent qui pouvait l'aider à comprendre que le secteur est rentable. Ce sont, il y a beaucoup de manœuvres qui
Merci.
Sont faites avec
Merci.
Les sous-traitances entre mm-hmm. les entreprises d'un même groupe, les prêts entre les filiales. Tout ça, il y a beaucoup d'opérations qui demandent
Merci.
Qu'il y ait
voilà.
suffisamment de
suffisamment de travail de transparence. Et alors, on va retourner ici à Kinshasa. Maître Omar, merci d'être avec nous. Vous avez suivi les uns et les autres l'importance de la révision de ces codes miniers. Et notre invité vient là en détail me présenter des failles qui font aujourd'hui que les secteurs, quelle que soit la production, quel que soit les gisements, quel que soit le nombre d'entreprises minières qui se sont installées, qu'on ne sente pas cela et qu'on estime que la loi peut résoudre cette question. Bonjour Maître Omar, merci d'être avec nous. Omar, vous êtes avec nous? Des petits soucis des lignes à Kinshasa avec Maître Omar, nous faisons un bon à Lubumbashi. Joseph, merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour Joseph.
Bonjour Pierrot et merci. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de l'économie à travers le monde.
On vous écoute Joseph.
Je vis dans une province à vocation minière. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a revu le code minier dans notre pays. Alors, comme l'ont dit certains des intervenants, nous, on se demande, par exemple, ici à Lubumbashi, il n'y a pas plus longtemps, au sommet du pays, on a décrié la différence qu'il y a entre ce que nous nous sommes en train de vivre mmh. et la vie de la population. Alors, nous, on se pose la question. Nous qui vivons dans cette ville où, depuis que je suis arrivé, j'ai 10 ans à Lubumbashi, tous les jours, je vois des tracts pleins de minéraux qui sortent par la route Kasumbalesa. Mais quand tu vois, mon cher ami, la vie que nous menons, alors, moi, je me demande où sont les failles dans le code minier qu'on a eu depuis 2002 et pourquoi la révision. Alors voilà pourquoi nous voulons tout simplement dire bienvenue cette révision du code minier, mais en réalité le peuple lambda n'espère rien de cette révision parce que j'ai même amené à couper mon cher ami, nous continuerons à vivre ce que nous vivons tant que les mandataires qui sont dans des institutions n'ont pas encore compris qu'ils doivent être là pour le bien mmh. de la population. Cher ami, il y aura autant de révisions et nous tiendrons toujours cette émission tant que la MONUSCO sera là et la radio au Capi. Et vous verrez qu'il n'y aura aucune amélioration pour ce qui est du social du peuple congolais. Parce que nous nous demandons pourquoi, où sont les failles, se résument, où se trouvent les failles
mmh.
hein? Bienvenue à cette révision du code minier, mais je me répète, il n'y aura rien que le peuple congolais pourra espérer de cette révision que le ministre a présentée hier devant la représentation nationale.
Merci beaucoup, Joseph. Vous estimez que, d'ailleurs, il a été difficile aujourd'hui, hein, cet exemple, rappelons, le chef de l'État l'avait dit lors d'une visite à Lubumbashi, c'est là où il avait déploré les conditions de vie, la misère, la pauvreté, avec la surproduction minière, tout ça. Alors, vous estimez que on peut bien revoir le code, on peut bien avoir un nouveau code, mais s'il n'y a pas un engagement politique sérieux, la révision du code ne va pas résoudre le problème et la situation sera la même. C'est ainsi que nous allons accorder la parole à un politique honorable, Juvénal Mounoubo. Vous êtes député national élu de Walikale, où nous avions d'ailleurs fait le débat autour de l'exploitation minière à Walikale. Et puis, avec le degré de pauvreté, l'année passée, on a eu ces débats-là. Et vous qui examinez ces codes miniers au niveau de l'Assemblée nationale, pensez-vous aujourd'hui que le fait de revoir ces codes miniers va résoudre cette question de pauvreté des communautés locales, là où les exploitations minières s'opèrent honorables? Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Invitation, j'ai dit bonjour également à tous les auditeurs des Paroles aux auditeurs. La question est pertinente de l'auditeur, la question de tout à l'heure. Est-ce que le texte suffit, le texte des lois? Je suis de son avis. Je ne pense pas que ça soit automatique, avoir une nouvelle loi ou une nouvelle législation. Pourquoi? Parce qu'il faut de la volonté, il faut la volonté politique pour appliquer la bonne gouvernance minière. Le ministre lui-même l'a dit, parce qu'au fait, quand il a présenté le projet de loi portant code minier, il a fait le bilan des 15 ans d'existence de la loi de 2002, parce que la loi en vigueur jusqu'à maintenant, c'est cette loi de 2002, et qui avait modifié l'ordonnance loi de 81. Alors, il a dit qu'il y a eu beaucoup d'entreprises, c'est vrai, qui ont reçu des titres, des titres ont été octroyés à beaucoup d'entreprises. Il a dit que la production aussi, hein, que ce soit les cuivres, cobalt, même l'or, a augmenté. Mais il a été d'avis avec nous, il était assez honnête pour dire que le niveau de vie ne s'est pas amélioré des populations congolaises, et même les recettes de l'État. Donc il se pose un problème à ce niveau. Comment se fait-il que la production peut augmenter et que les recettes de l'État restent au stade non satisfaisant? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. On a produit, mais où sont les recettes? Est-ce que tout ce que les entreprises payent rentre dans la caisse de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas encore des cas d'évasion fiscale ou de trafic d'influence? Est-ce qu'il n'y a pas certaines exonérations? Alors, il faut voir tout ça. Donc, il a été honnête, le ministre. Il a avoué que les défis restent. Est-ce que le code résoudra tous ces problèmes-là? Ce n'est pas automatique, encore une fois. C'est vrai, il y a des modifications que le ministre propose dans ce code. Hein, il propose à ce qu'on attribue des titres uniquement aux personnes morales et pas à des personnes physiques. Ça, c'est une nouveauté. Il propose le cahier des charges entre la société et la communauté locale. C'est une bonne chose. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut considérer comme des nouveautés. Aussi, il propose l'augmentation des droits. Et là, les compagnies ne sont pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, les compagnies estiment qu'elles n'ont pas été associées comme elles devraient l'être, que le consensus nécessaire n'a pas été réalisé. Mm-hmm. Parce que ces codes, justement, consacrent un certain nombre d'augmentations en termes de droits, des taxes qu'il faut payer à l'État. Mais c'est aussi une occasion, pourquoi pas, pour nous les élus, la société civile aussi, de voir si ces codes peuvent vraiment être un code à l'avantage de la population. Parce que les textes de loi aussi peuvent rencontrer les désiderata de la population, mais il faut pour cela la volonté politique. Raison pour laquelle j'estime, par exemple, que, et ça ce n'est pas dit clairement dans le code, et il faut que les projets de code soient améliorés en intégrant le fait que la consultation du public doit être la plus large possible. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas obtenir un titre à Kinshasa, il débarque par exemple dans une zone, et ils commencent l'exploitation sans que ceux qui vivaient là-bas, les populations, ne comprennent grand-chose. Donc les gens doivent être associés, le consentement doit être libre, préalable, éclairé. Et ça, on ne retrouve pas clairement dans les projets
mais,
de
mais
loi.
Mais rappelons quand même, oui, rappelons dans les faiblesses, honorable Juvenal, qu'il y a eu beaucoup de conflits. Quand on prend la situation au Katanga, par exemple, hein, où il y a des villages qui ont été déplacés, la question de l'indemnité s'était posée. Il y a le problème de l'environnement. On a parlé de ça sur Radio Okapi, des rivières qui ont été polluées, des entreprises qui se défendaient. Il y a des routes qui n'ont pas été construite entre les sites d'exploitation, par exemple, avec la pollution de l'environnement. Mais bon, le ministre va revenir à l'Assemblée nationale et l'examen va continuer. Est-ce que ces questions doivent être prises en considération? Parce qu'il ne faudrait pas que l'exploitation apporte plus de malheur que de bonheur auprès des communautés locales.
Tout à fait. Absolument, je veux dire. Il faut que tout ça soit respecté. Il y a ce qu'on appelle étude d'impact environnemental. Ça, c'est avant l'exploitation. Il faut qu'on étudie si l'exploitation ne va pas avoir un impact négatif sur les populations, parce qu'on exploite, c'est vrai, mais d'abord et avant tout, il y a des gens, il y a des humains, il y a la population qui vit dans cette zone. Et l'exploitation minière doit viser quoi? Elle doit viser le développement communautaire, le développement à la base. Donc c'est important, et puis on va veiller là-dessus. Par exemple, dans les projets de code, il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas dit très clairement, l'indemnisation et surtout la réinstallation des populations affectées. Lorsqu'il y a des localisations, et puis ça ne peut pas se faire au hasard, il faut qu'il y ait des mesures de réinstallation, des compensations nécessaires. Donc nous allons y revenir dans les amendements, parce que le projet du code minier n'est pas si clair comme on le souhaitait. Donc pour nous, pour moi, je considère que c'est une opportunité d'y intégrer des amendements qui vont beaucoup plus dans le sens du social.
Voilà.
Soit un document équilibré, un document à l'avantage de l'État, un document à l'avantage de la population locale.
Merci.
Évidemment, un document, un code qui ne fait pas fuir les investisseurs aussi.
Il faut cet équilibre. Merci beaucoup, honorable, pour toutes ces précisions. On retourne directement à notre invité, maître Jean Keba. Sur ce que le député vient de dire, hein, que ça soit indiqué clairement, surtout en termes de relocalisation, réinstallation des populations, la question de l'indemnisation, quand on voudrait exploiter dans un site quelconque, c'est la question qui a provoqué beaucoup de problèmes hein, à travers le pays. Mais quand vous avez eu des discussions en amont avec les pouvoirs publics, et les autres partenaires, est-ce que ces questions ont été considérées comme des préoccupations majeures dans la révision du code maître Jean Keba?
Ok, merci Pierrot. Je salue honorable Juvenal pour cette intervention et cette préoccupation. Et d'emblée, je lui dis que s'il est disponible, lundi, nous pouvons nous rencontrer à l'ITIE pour échanger sur ces amendements et ce qu'il est en train de proposer.
Ok.
D'abord, de répondre à cette question, je vais revenir sur ce qu'il a dit avant par rapport aux bénéfices tirés par l'État congolais dans l'exploitation minière sous le régime du code 2002. Là, ce qu'il faut d'abord souligner, en fait, c'est qu'il y avait un choix qui était opéré par le législateur en termes d'amortissement. C'est-à-dire qu'on avait opté de voir chaque investisseur qui commence l'exploitation rentrer d'abord dans ses frais, c'est-à-dire récupérer d'abord ce qu'il a investi avant de pouvoir payer l'impôt sur le bénéfice.
Exact.
Et c'est cet impôt-là qui est beaucoup plus significatif, qui pouvait nous aider à faire une relation entre le volume de la production d'exportation avec ce qui est payé à l'État. Mais il se fait qu'avec l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, l'État qui n'a pas pu suivre correctement pour maîtriser l'investissement réalisé a été roulé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que beaucoup de projets ont tourné pendant 5-10 ans de production d'exportation sans devoir payer l'impôt sur le bénéfice parce qu'ils devaient d'abord amortir le capital. Et si l'État était vigilant, qu'il avait bien suivi, peut-être qu'on aurait pu déjà commencer à voir les retombées de cette réforme législative.
Okay.
Et cela demande que le législateur actuel puisse recadrer les choses pour éviter toutes les manœuvres de dévasion fiscale.
Merci.
Et par rapport à la question des consultations de population,
rapidement, oui.
Sont très importantes. On a parlé de l'étude d'impact environnemental. La loi actuelle prévoit la consultation des communautés à cette étape. Mais malheureusement, les choses se font de telle sorte que c'est un groupe de personnes qu'on va regrouper dans un restaurant ou dans un cadre. Une de ces deux s'appelle le notable, le chef de groupement, quelques individus, mais sans que la population elle-même, dans son actif, ait été informée de l'investissement qui va être réalisé, quels sont les impacts et quelles sont les mesures d'atténuation que l'investisseur va prendre. Et cela fait que les communautés ne sont pas réellement consultées et ne donnent pas leur consentement de manière libre, préalable et éclairée comme le fait les standards internationaux. Et là, la société civile a prévu des amendements de façon à ce que ce principe puisse être clairement intégré dans la loi afin que chaque fois qu'on doit procéder à une exploration minière, c'est lors de l'étude que les communautés soient effectivement et en grande majorité consultées et qu'ils donnent leur avis, leur consentement de manière claire, libre et éclairée.
Mais à ce niveau, des amendements, Maître Kemba, pour permettre aux deux derniers auditeurs de s'exprimer, je crois, comme vous l'avez souhaité, hein, on pourra voir comment vous pouvez entrer en contact avec Honorable Juvenal Mounoubo, qui travaille aussi sur ça. Comme ça, échanger ces amendements, ces propositions, c'est très important. Mais permettez qu'on accorde la parole aux deux derniers auditeurs. On va revenir à vous des moments à l'autre. Sur la page Facebook, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent en ce moment dans les débats. Mbo, Impo, Francie, Junior Bopongo, François Mbuyu Munga, José Kalala, Joël Mambo, Fabien Kambizi Ngadi, et tous reviennent sur la nécessité de revisiter ces codes, mais la volonté politique d'arriver vraiment à respecter ce qui est à l'intérieur. Et Alain Bolodia, ils sont nombreux sur la page Facebook. Et Albert, vous êtes à Kananga. En une minute et demie, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue par rapport à ces nouveaux codes miniers?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord évoquer un peu, comme j'ai une minute et demie. Oui, le projet du code minier déposé à l'Assemblée nationale est une bonne démarche faite pour attirer les investisseurs. Mais nous déplorons en fait une seule chose dans notre pays, c'est quoi? Nous n'avons pas la culture du respect des textes. Nous pouvons évoquer beaucoup de textes en fait. Mais comme nous n'avons pas la volonté de faire, nous n'avons pas la conscience, nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour répondre aux aspirations du peuple congolais, nous avons resté toujours comme toujours, nous connaissons tout ce que nous vivons toujours. Donc je me pose souvent la question de savoir dans notre pays ici, si nous pouvons attendre au fait le projet de la révision là des codes miniers. Nous pouvons réviser. Mes chers journalistes, est-ce que... Bon, j'aimerais poser la question à celui qui est...
Rapidement. Allez-y rapidement.
Oui, je me pose la question de savoir si le monsieur ministre chargé des mines là peut nous assurer à ce niveau-ci. Il est nécessaire maintenant, à ce moment précis, de déposer ce projet de loi.
Voilà, ça a été souhaité comme ça. Si vous avez suivi,
à ce moment, nous connaissons cette
Oui, mais si vous avez suivi depuis les débuts, ça fait depuis 2012 que nous avons eu beaucoup de débats. La société civile, tout le monde souhaitait qu'il fallait revoir le code minier. À un certain moment, le gouvernement a pu renvoyer cela plusieurs fois à Albert. Alors, c'est à ce moment qu'on estime que un nouveau code beaucoup plus clair peut résoudre la question dans les domaines de l'exploitation de minière. On va terminer avec vous, Félicien. Merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres. D'ailleurs, Joseph de Lubumbashi s'inquiétait tout à l'heure en disant, quand vous regardez aujourd'hui l'exploitation minière au Katanga, dans l'ex-province du Katanga, le nombre de trucks qui traversent la frontière, lui, il estime qu'on ait un nouveau code, l'ancien code, le problème réside au niveau de la volonté politique. S'il n'y a pas cette volonté politique, on pourra revenir encore dans le débat pour dire que le nouveau code n'a pas eu d'effet. Bonjour Félicien.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi et bonjour à l'invité. Moi je vais vous dire que le problème que nous avons dans notre pays, c'est un problème d'homme, c'est un problème de gouvernance. Les causes là fait partie des mécanismes que les dirigeants que nous avons aujourd'hui ont trouvé pour arriver à l'enrichissement sans cause est facile. Ils n'ont comme référence que l'enrichissement des gens de la Deuxième République et ils multiplient les mécanismes pour qu'eux aussi arrivent à ce niveau. Ils ont même dépassé les niveaux. Et si aujourd'hui on révise les codes, tant qu'ils seront toujours là, je pense que ça n'apportera rien. Mm-hmm. Nous avons des problèmes parce que la classe politique qui est aux affaires aujourd'hui n'a aucun souci pour son peuple, n'a aucun souci pour son pays. Et les problèmes pour eux, c'est eux-mêmes. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils ont créé ce code-là pour attirer les investisseurs. Ces investisseurs n'ont même pas fondé des sociétés durables comme la Gécamine, comme la Miba, comme Kilomoto. Et tout autour d'eux, il n'y a aucune infrastructure qui est développée. Et les peuples qui habitent ces terres-là ne bénéficient de rien. Mais ils sont en train d'exploiter, d'avoir de l'argent et d'amener chez eux et se partager avec nos dirigeants. À cette allure-là, ce pays va se retrouver sans minerais et dans une pauvreté plus profonde dans les jours à venir. C'est pour cela qu'il faudra donc que nous puissions changer par des voies démocratiques de la classe politique, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la meilleure de la classe politique qui puisse nous amener au développement. Mais si nous changeons de code aujourd'hui, avec les mêmes hommes, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les codes ne vont rien apporter. Merci. C'est un problème de mentalité.
Merci beaucoup, Félicien. C'est un problème de mentalité. On revient à vous, Maître Jean Keba, pour clôturer cette émission en deux minutes. Hein. Nous espérons qu'après toutes les discussions, les propositions, les amendements, on aura un code qui va quand même permettre à ce que nous puissions avancer et surtout que l'exploitation minière puisse assurer le développement. On vous écoute pour conclure cet échange.
Ok, merci Pierrot. Bon, je reviens sur une question qui a été soulevée plus d'une fois, c'est celle de la culture de test. En disant que même si on changeait le code aujourd'hui, il ne sera jamais appliqué, ça ne va rien changer. Et là, c'est que j'ai dit que si les tests ne sont pas respectés, cela relève aussi de la responsabilité de chaque Congolais. Parce que la meilleure protection ne peut venir que des tests légaux. Et il appartient à nous tous de pouvoir, à chaque fois qu'ils ne sont pas respectés, rappeler à ceux qui sont appelés à les faire respecter, de pouvoir les assumer. La société civile est en train de militer pour qu'il y ait une disposition dans le code minier qui sera révisée, qui permet aux membres des communautés, aux ONG, de pouvoir saisir directement la justice chaque fois que le code n'est pas est violé. Et il faut se rappeler que les ressources minières sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. D'où nous avons l'obligation de pouvoir militer pour qu'il y ait un test cohérent qui protège l'environnement et qui garantit le développement durable. Et par rapport aussi à la demande de la société civile, nous avons voulu aussi être encore dans ce cadre en plus capitaliser une bonne pratique que nous avons observée auprès des communautés qui vivent autour de l'entreprise Tengefundo Mining. Il a ouvert un compte dans lequel chaque année, il est versé de 0,3% du chiffre d'affaires pour financer le développement du communautaire. Mm-hmm. Nous avons voulu que le législateur puisse intégrer cette disposition pour en faire une obligation pour tous les opérateurs miniers, de façon à ce que chaque communauté ait les garanties d'avoir au moins un financement sûr qui vient de l'exploitation pour financer le développement durable.
Merci.
Cela étant, nous invitons le lundi entre 9h et 12h au siège de l'ITIE tous les députés qui sont soucieux de voir le secteur minier contribuer au développement du Congo à pouvoir venir à la société civile pour ces amendements que nous proposons.
Merci beaucoup,
afin d'améliorer le texte posé au Parlement pour une meilleure protection des droits des Congolais et spécifiquement des communautés qui sont affectées par
Merci beaucoup, Maître Jean Keba, d'avoir accepté notre invitation et commenté ces sujets avec les auditeurs des Radio Capi. Merci à toute l'équipe qui a produit cette émission. Paul dernièrement a été à la mise en onde, Jir Lungembo au standard et à la coordination, Nico Kalambay à la réalisation et Pierrot Elamenji vous l'a présenté. Sous la supervision de Martin Sebujangwe, parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Merci. Au revoir.